En décembre 1865, l'esclavage est aboli aux États-Unis. Mais je reviens à Mary Kate, donc la fille de la femme métisse, dont la mère a été violée par un planteur irlandais, qui naît en 1901. 1901, c'est 40 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et c'est donc la mère Denise Wayman qui, elle, naît en 1933 dans une ville qui s'appelle Tryon, en Caroline du Nord. Son père s'appelle John Devine, il est barbier en ville, et sa mère, donc Mary Kate, elle est pasteur à l'église. Et très vite, à 3 ans, à la maison, la petite Denise, elle commence à jouer du piano et de l'harmonium. Et elle joue déjà tellement bien que sa mère pense qu'elle a reçu un don de Dieu. Alors, elle l'emmène avec elle à l'église, plusieurs fois par semaine, pour qu'elle puisse jouer pendant les offices. Et Eunice finit par devenir la pianiste officielle de l'église où prêche sa mère, à l'âge de 4 ans. Et il y a une femme, Miss Miller, qui l'entend jouer, une femme chez qui Mary-Kate faisait les ménages, pour arrondir les fins de mois, hein, qui l'entend jouer, qui trouve qu'elle a un don fantastique, et que ce serait un péché de ne pas l'aider à prendre des cours de piano sérieusement. Alors elle lui offre des cours chez une amie à elle, qui s'appelle Muriel. Muriel Mazanovitch, et qui deviendra sa professeure de piano. Moi, c'est Jean-Louis. Jean-Louis Mazanovitch.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Si Eunice Wayman avait, en dépit de sa peau noire, été reçue au concours du Curtis Institute en 1953, peut-être serait-elle devenue, ainsi qu'elle l'espérait, une pianiste classique, heureuse de sa vie et satisfaite de ses choix. Qui sait ? Mais nous aurions été privés de la voix, rebelle et déchirante, de la grande Nina Simone, devenue porte-parole des femmes noires et de la douleur de son peuple, dans un pays où le racisme n'en finit toujours pas de tuer. Ses disques, ses entretiens et son autobiographie nous ont raconté ses déchirements et sa lutte intime, menée tout au long de sa vie pour surmonter ses blessures et ses désordres intérieurs. Une vie de triomphe et d'angoisse qu'elle achèvera dans la solitude en France, dans le Sud. Difficile, on s'en doute, de mettre en scène un spectacle dans lequel il faut incarner une icône planétaire comme Nina Simone, et encore plus de faire entendre sa voix inimitable. Le metteur en scène, David Jesselson, a contourné subtilement ces obstacles en choisissant, comme il aime à le faire, de raconter à travers elle tout un pan de l'histoire, ici américaine, de l'arrivée des colonisateurs au soubresaut de la lutte pour les droits civiques. Avec une distribution franco-américaine et une élaboration collective de ce récit théâtral, il parvient à nous faire ressentir le silence et la peur, titre du spectacle dans lequel Eunice Nina a tenté de vivre. Et son interprète américaine, Dee Besnahel, y est exceptionnelle. Bonsoir David Jesselson.
Bonsoir.
Alors c'est un spectacle qui nous surprend au premier abord parce qu'il est beaucoup moins intime que ceux qu'on avait vus de vous, comme en route Kaddish ou Dorine bien sûr. Et c'est un spectacle qui brasse tellement de choses qu'on se demande si vous l'avez abordé comme ça avec l'esprit conquérant, conquistador vers le nouveau monde, ou si quand même de temps en temps vous vous êtes fait un peu peur.
Les deux, en disant qu'il fallait être conquérant pour pouvoir se lancer dans l'aventure, parce que c'était un projet impossible à mener dès le départ, donc c'était très excitant, parce que c'était impossible, mais c'était très difficile. Et oui, je me suis fait peur, on s'est fait peur beaucoup, parce que c'était un sujet trop grand pour moi, trop vaste, trop difficile, avec une nécessité pour moi impérieuse de le faire avec des artistes afro-américains, et cette nécessité contenait beaucoup, beaucoup d'inconnus, beaucoup de difficultés auxquelles on s'est confronté. On a failli arrêter plein de fois.
Et donc, vous avez passé plus d'un an à faire des allers-retours avec New York, trouver les acteurs, surtout convaincre des acteurs, convaincre des institutions théâtrales américaines de participer, parce que un petit Français qui arrive comme ça là-bas, c'est
ça pas
gagné d'avance. Non, hein. Comment ça s'est passé?
C'est un travail de 3 années. Ça a commencé il y a 3 ans grâce à une rencontre avec une femme qui travaillait à l'Office National de Diffusion Artistique, s'appelle Marianne Colletter, qui suit mon travail depuis plusieurs années et qui avait invité une autre femme qui s'appelle Lily Chopra, qui dirigeait à l'époque le French Institute Alliance Française. Et Lily Chopra est venue voir les lettres non écrites qu'on faisait à Théâtre Ouvert et ça l'a intéressée. Elle nous a proposé de le jouer à New York dans le cadre d'un festival qui s'appelle Crossing the Lines. Et j'avais, moi, déjà commencé à écrire le projet sur Nina Simone, Le silence et la peur. Je suis allé à New York au mois de septembre et j'en ai profité pour faire d'autres rencontres. On a aussi joué Doreen à Princeton dans un festival que fait un homme qui s'appelle Florent Mass. Et au moment où j'étais là-bas, j'ai senti que c'était un peu plus possible parce qu'on avait déjà un pied, d'une certaine manière, là-bas. Et là, je me suis baladé. Et j'ai eu de la chance, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des contacts. Il y a une chose qui se passe aux États-Unis, en tout cas là où j'étais moi à New York, c'est que l'esprit d'entreprise paye. J'aime pas l'idée, mais il n'empêche que de manière très très bête et méchante, quand on envoie un mail, souvent on a une réponse. Le problème, c'est le deuxième mail. Au premier, on vous répond. En tout cas, moi, on me répondait. Et donc, beaucoup de portes se sont ouvertes. J'ai passé une semaine à New York. J'ai écrit à plein de gens sur recommandation. Et plein de gens m'ont répondu. Donc en une semaine, je suis allé voir plein de directeurs de lieux. Et il y a notamment un théâtre qui s'appelle Harlem Stage, où il y avait un homme et une femme qui m'ont écouté. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça a pu se faire, c'est que je leur ai dit d'emblée, voilà, je suis un homme français, blanc, et j'ai envie de raconter l'histoire de Nina Simone. C'est pas la mienne, je pense que c'est impossible, j'ai quand même envie de le faire. Du coup, pour le faire, j'ai envie de le faire avec des acteurs afro-américains. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider ? Et en ayant posé ça comme préalable à tout, alors les portes se sont ouvertes. Et ils m'ont dit, ok. Et il y a une femme qui a été extrêmement déterminante, qui s'appelle Nicole Birman-Bloom, qui s'occupe du service culturel de l'ambassade de France à New York, qui a énormément contribué à ce que les liens se fassent avec la Harlem Stage. Et on a fait un stage de 15 jours, un stage audition en partenariat donc avec la Harlem Stage et les services culturels de l'ambassade de France. Et on a ouvert pendant 15 jours le travail. Moi, j'avais écrit, j'avais déjà passé un an à écrire. Et on a échangé et partagé avec des comédiennes et des comédiens qu'on a invités à participer. Il y avait Elios Noël, qui était dans Route Kadish, Laure Matisse, qui était dans Dorine, Lisa Navarro, qui faisait la scénographie, et Noura Serour, qui est à la production. Et tous les 5, chaque jour, on rencontrait les gens. Et on a passé 15 jours extraordinaires et d'une richesse folle à Harlem à débattre, à se dire est-ce que c'est possible, qu'est-ce que vous venez nous raconter, vous les petits Français. Mais c'était très assumé, donc du coup c'était très très productif tout de suite. Et une des choses très réjouissantes, c'est que les actrices et les acteurs nous disaient « Ah, ça fait du bien, on peut se parler ». Il va pas y avoir de malaise, puisque d'emblée vous nous avez dit que vous étiez au courant que c'était un peu bizarre que vous vouliez raconter cette histoire qui n'est pas la vôtre. Donc on va pouvoir dialoguer. Et du coup c'était très ouvert et très 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 passionnant.
Alors il y a quelque chose, David Jesselson, bien sûr, que vous avez évité, c'est de faire interpréter et les chansons et trop incarner Nina Simone. C'est difficile, on a tous des images d'elle, on connaît sa voix, et vous racontez des histoires qui la concernent. On va d'abord commencer, nous, par vous faire écouter sa voix dans les archives. C'était en 1994 sur France Musique.
Je n'ai pas vraiment connu le racisme. Nous étions pauvres et je savais que ça existait, mais ça ne me touchait pas. La première fois que ça m'a touchée, c'était quand je donnais un récital, j'avais 12 ans. Et on est venu placer mes parents tout à fait au fond de la salle. Alors je me suis levée brutalement et j'ai dit « Non, mes parents vont s'asseoir devant ». Et la seconde fois, c'était quand je suis arrivée au Curtis Institute pour passer un concours. Je savais que j'étais bonne à l'époque. C'est vrai, j'étais humble, aujourd'hui moins. Et j'ai pas vraiment compris parce que je jouais Tcherny, Liszt, Rachmaninoff et Bach et je savais que j'avais bien joué. Et je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas été admise. Et autour de moi, il y a des gens qui connaissaient bien mon talent et qui m'ont dit, mais Nina, c'est parce que tu es noire. Et ça m'a choquée.
David Jesselson, on sait que vous travaillez habituellement très en amont avant de passer à l'écriture et évidemment à la mise en scène. Donc là, sur Nina Simone, vous avez lu tous les bouquins. D'ailleurs, il y a la liste dans le dossier de presse. Vous avez vu toutes ces archives télévisées ou radio. Et il a fallu s'en échapper parce que, voilà, la facilité, ça aurait été de nous raconter sur la scène l'histoire de Nina Simone. Et on n'aurait peut-être pas accroché beaucoup. Donc, comment est-ce que vous avez basculé dans cette pièce étrange où on change d'époque, on change de temps, on change de langue? Comment ça s'est décanté, cette affaire-là?
C'était très très long. C'était très long parce qu'effectivement, c'est écrasant. Nina Simone, c'était l'inverse de Dorine. Dorine, on savait rien, alors on pouvait tout inventer. Nina Simone, on sait tout. Ou on pense qu'on sait tout. En tout cas, on peut trouver beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui reste à inventer quand on nous dit tout? Et du coup, je me suis concentré un peu à la manière de ce qu'on avait fait sur En route Kaddish, sur des moments de sa biographie, de sa vie, qui me semblaient résonner avec autre chose qu'elle-même, qui me semblaient résonner avec de l'histoire. Et en fait, ça s'est construit beaucoup avec des textes théoriques à côté, avec des textes d'historiens, avec des travaux sur les blessures transgénérationnelles, avec comment se constituent les empires, avec l'histoire des traites négrières, avec les conflits qu'il y a entre les différents historiens. Et du coup, tout au long de sa biographie, on trouve ça. Dans son autobiographie, elle raconte comment, à l'âge de 5 ans, elle doit soigner la cicatrice de son père qui a été victime d'une occlusion intestinale. Et pendant 8 mois, elle l'a à charge, la famille dit « c'est toi qui dois lui changer le pansement ». Je me dis, une gamine de 5 ans qui doit changer le pansement de son père 10 fois par jour, c'est une plaie ouverte, qu'est-ce que ça dit? Et évidemment, moi, ça venait résonner avec d'autres choses que j'avais lues sur ça. Qu'est-ce qu'une génération transmet à une autre des violences qu'elle a subies? Et qu'est-ce qu'elle transmet de manière volontaire, psychiquement et involontaire? Et comment est-ce que la violence peut laisser des marques dans les corps des individus, de manière volontaire ou involontaire? Et donc, je me suis dit, alors ça, il faut le raconter, parce que c'est pas simplement l'histoire d'une petite fille qui change un pansement, c'est l'histoire d'une petite fille qui essaie de guérir la blessure de son père. Donc c'est une génération qui décide de guérir la génération d'avant. Est-ce qu'elle y arrive? Visiblement pas. Et les choix étaient beaucoup de cet ordre-là. Je lis qu'en 65, elle va à Montgomery pour faire un concert de soutien au mouvement de lutte pour les droits civiques, et que la salle où elle était censée jouer annule. Les hommes blancs qui dirigent cette salle disent non, on veut pas de militants. Donc les pompes funèbres noires de la ville prêtent des cercueils pour que les artistes noirs puissent faire une scène improvisée sur des cercueils. Et donc Nina Simone, en 65, se retrouve à chanter sur un cercueil Mississippi Goddamn. Et je trouve ça complètement délirant. Et donc j'utilise ce petit récit-là et je le mets à la toute fin. Et puis finalement on le coupe, mais il en reste quelque chose sur les morts, sur comment est-ce que on fait parler les morts, comment est-ce qu'on chante sur les morts. Et ça fait qu'il y a une séquence avec des ombres, et ces ombres, ce sont les morts dont on n'a pas pu parler. Voilà, ça se construit par ce genre de choses.
Et puis, il y a aussi ces échanges de dialogues français et anglais, les uns parlant français, les autres répondant en anglais, entre, par exemple, Laure Mathis, qui joue sa professeure de piano, donc elle aussi immigrée de la vieille Europe, et qui est là et qui va lui apprendre le piano classique, et puis son mari, Elios Noël, votre complice de toujours, qui, lui, est en charge, il est complètement lunaire, il est en charge du récit de l'histoire américaine, c'est-à-dire avant même les Indiens, les premiers occupants, puis les Indiens. On sait que Nina Simone avait du sang Cherokee. Tout ce passé qui pèse sur les épaules de cette petite fille de 5 ans et de cette grande chanteuse ensuite, ça va provoquer des troubles et vous y faites allusion. On va écouter un nouvel extrait de votre pièce, ce moment où Laure Mathis, qui joue donc la professeure de piano, explique que Nina Simone a été diagnostiquée. Elle a un problème psy.
Ils disent que c'est un trouble dissociatif de l'identité.
Son père ?
Elle. Ils disent que c'est ça qu'elle a.
Ok.
Lui, c'est un cancer.
Okay.
I've been told that in Liberia, there's always a healer somewhere. They even heal white people sometimes. They don't have that here. Not one. Too bad for me. They give you orders to carry out, and then then they tell you they don't know if it's going to work. They have a new molecule they're trying out on me. It slows your fingers down.
Ils vont très bien, tes doigts, Eunice.
Yeah, for des pas sur la neige, because it's slow. But for the rest, have you heard me play Come By Here on Trilophon?
Fais-leur Images.
No.
C'est long, Images.
No, no. I've played Images too many times. They don't care about Images. They want Parliament, Funkadelic, or David Bowie.
David Jesselson, cette actrice américaine d'origine ghanéenne qui a vécu au Tchad, puis ensuite aux États-Unis, elle est absolument formidable, cette Dis Biesnael. Elle, c'est une femme très, très forte, très puissante, on sent que c'est une combattante. Et en même temps, dans ce que vous lui faites dire, elle nous raconte une Nina Simone qui chante sur des cercueils, c'est-à-dire qu'en fait, qui est démolie et par le passé du peuple noir et par ce qui s'est passé, elle. Enfin, elle a toujours été fracassée par les hommes, par son père, par ses petits amis, par son mari qui la battait. Et c'est vrai qu'on voit sur la scène s'élaborer ce destin d'une femme forte, combattante et à l'intérieur, en miettes.
Oui, c'est comme si... Ce qui est frappant, je trouve, chez elle, c'est que... Enfin, il y a mille choses, mais... L'autre est un combat. Et pas forcément et pas forcément une paix. Elle se bat avec l'autre, et l'autre se bat avec elle. Et effectivement, dans ses relations amoureuses, il s'agit de ça beaucoup. Elle veut aimer, elle a un désir d'amour fou depuis l'âge de 15 ans. Elle est déçue, elle n'arrive pas à vivre son amour adolescent parce qu'on lui dit « fais de la musique ». Et puis elle rencontre cet homme qui exerce une grande fascination sur elle, qui est en même temps très rassurant, c'est un homme qui va la protéger. Et... se noue dans leur relation quelque chose d'une très grande ambiguïté qui est classique, c'est que cet homme protecteur, il est aussi violent. Et donc, il la protège autant qu'il l'attaque. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui se noue dans son histoire. Quand elle rencontre Andy Stroud, on est en 59, elle est pas du tout impliquée dans les mouvements de lutte pour l'obtention des droits civiques des Noirs américains. Pas du tout. Elle est une chanteuse qui essaye de faire grandir sa carrière. Et c'est à partir de 1963 que Lorraine Hansberry, qui est son amie et sa voisine, la fait rentrer dans le mouvement avec James Baldwin et Nixon News et toute cette communauté d'intellectuels noirs américains. Mais avant ça, elle n'y est pas. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une ambiguïté permanente. Elle est dans un combat, dans son intimité et dans un combat politique. Elle se bat à l'intérieur et à l'extérieur. À partir des années 62, 63, 64. Et ce combat intérieur et extérieur n'en finit pas. Et évidemment, on peut se demander si c'est pas ça qui l'a détruit. Elle dit dans l'extrait que vous avez passé au début qu'elle a pas connu le racisme à Tryon. Évidemment, elle dit ça en 94. Elle a connu le racisme à Tryon. C'était quand même une ville du Sud où il y avait une ségrégation. Mais c'était une ségrégation, si j'ose dire, douce, selon ce qu'on lit. Si tant est qu'une ségrégation peut être douce. Mais en tout cas, elle avait la possibilité d'aller prendre des cours chez une femme blanche. Ce qui est quand même extraordinaire dans les années 40, dans le sud des États-Unis, c'est quand même pas commun. Et qu'une communauté blanche décide de financer ces études-là, c'est pas rien. Mais effectivement, il y a des ruptures au fil de sa vie dont on voit bien qu'elle ne se remet pas. Et effectivement, je trouve intéressant cette chose du trouble dissociatif de l'identité. Elle est brisée en plusieurs morceaux, elle a plusieurs voix qui parlent en elle, qui cohabitent et qui se combattent. Et donc c'est cette dimension-là de la... Voilà, je me répète, mais c'est le combat intérieur qui vient rencontrer le combat extérieur.
Et puis il y a aussi cette présence du père écrasante, et il est là présent sur la scène. Son père, il est interprété par Craig Blake. Par Kim Sullivan, et Craig Blake fait son mari. Et évidemment, le père, il est présent dans les chansons de Nina Simone, cette magnifique chanson qui s'appelle « My Father ».
Me that we would live could learn to dance. We lived in Ohio then. He worked in the mines on his dreams were both sweet.
J'ai d'abord été pianiste et je suis devenue chanteuse uniquement parce qu'il fallait que je gagne un peu de sous. Je devais devenir une véritable star du piano classique. Mais j'ai dû accepter un boulot dans une boîte de nuit. À peine arrivée, on m'a demandé si je chantais, j'ai dit non. Et on m'a dit, si vous voulez un job, vous avez intérêt à chanter. Alors j'ai chanté et j'ai démarré ma carrière dans le showbiz. Enfant, j'avais chanté à l'église avec mes deux sœurs. Mais je chantais toujours dans la voix de basse. Et je ne savais pas qu'avec si peu de moyens, je pouvais donner de l'émotion. Et j'avais l'avantage d'entendre parfaitement et de savoir jouer dans mes tonalités. Parce que ma voix est limitée et ma tessiture est limitée. Donc quand le patron m'a dit « Vous avez à chanter », j'ai juste pris quelques airs populaires que je connaissais. Je les ai transposés dans mes tonalités. Nous avons tous des limites. Ma voix ne dépasse pas 2 ou 3 octaves. J'ai pas les moyens techniques d'une Ella Fitzgerald. Elle peut chanter dans 3 ou 4 octaves peut-être.
David Jesselson, dans Le silence et la peur, que vous mettez en scène et qui est actuellement en tournée en France, on s'attend évidemment à entendre la musique et la voix de Nina Simone. Et évidemment, il n'y a pas. Donc, vous vous êtes posé la question, j'imagine.
Oui, oui. Il en reste très peu. Il reste une chanson, il reste Images, qu'elle chante a cappella. Et il y a un travail de réécriture, d'interprétation de sa musique et de musique classique. Mais oui, on s'est posé la question parce que beaucoup de séquences demandaient de la musique pour moi à l'écriture. Je voulais démarrer le spectacle avec un morceau qu'elle chante en 72, Who Knows Where the Time Goes, qui parle de la fragmentation du temps. Je voulais mettre Images 10 minutes après, I Wish I Knew. Et en fait, très vite, ça devenait illustratif, pour commencer. Alors ensuite, j'en ai eu un projet plus ambitieux, mais c'était finalement trop compliqué à faire, heureusement qu'on l'a pas fait, c'est que je voulais proposer un claveciniste et un contrebassiste de réinterpréter du Nina Simone. Mais ça aurait été autre chose, ça serait devenu un projet musical. Et assez rapidement, on s'est dit, non, en fait, Nina Simone, on va la laisser où elle est. Si on diffuse des morceaux de Nina Simone sur scène, bah, ça ne produira pas grand-chose de plus que si on l'écoutait à la maison, chacun pour soi. Et encore une fois, c'est à force d'essais qu'on s'est dit, bah non, ça c'est trop puissant d'une certaine manière, et tout ce qu'on mettra autour de sa musique apparaîtra extrêmement faible. C'est comme un soleil, quoi. Voilà, il y a beaucoup de puissance, il chauffe, il rayonne dans tous les sens, alors il faut le laisser comme ça. Et du coup, Loïc Leroux, qui compose la partition sonore du spectacle, s'est énormément, évidemment, inspiré de morceaux. Il compose au centre du spectacle un morceau adapté de Siderman, et il travaille avec le prélude de Bach, numéro 2, qu'Elios Noël avait apporté dans les improvisations. Elios fait des variations autour d'I Wish I Knew How It Feels To Be Free. La séquence qu'on entendait tout à l'heure avec Elios Lore et Eddie, c'est ça qui se joue au piano, c'est une ritournelle construite à partir de ça. Donc, en fait, c'est un peu secret. C'est-à-dire qu'il y a du Nina Simone partout, mais il n'est pas visible. Ou en tout cas, il entoure, mais non, je pense que sinon on aurait fait un musical.
Alors, vous avez travaillé évidemment avec les lettres qu'elle a envoyées, notamment beaucoup de lettres à son frère, où elle explique aussi ce qui tout d'un coup va devenir la grande affaire de sa vie, c'est qu'elle va plonger complètement dans la lutte pour les droits civiques. Et comment, puisque dans les années 60 aux États-Unis, on sait bien ce qui s'est passé. Il y a ce moment qui est le cœur de la pièce où Dee Besnahel dit les vrais mots de Nina Simone à propos de ce qui se passe et de ce que c'était que ces lois de ségrégation qu'on appelle évidemment les lois Jim Crow.
We were 4 million in the South and 1 million in the North. 4 million continue to produce the corn, the cotton, the rails, the arms, the asses, and the cunts for America to get rich. But the blood of the workers couldn't mix with the blood of the others, so they separated us. It was called Jim Crow, these laws, and this is how it works. If you want to take a shit, you go to your John. If you want to eat, you go to your restaurant. If you want to learn, you go to your school. If your teachers want to study, let them prove they've got something between their ears and we'll listen to them, maybe. If you want to take the bus, go to the back and keep quiet. If you want a house, find some planks and bricks. If you want to live in an apartment, get out of my neighborhood. And if you want to hit on one of my white girls, I'll cut your balls off and those of your children. But if you want to vote, pay, or get out and shut up. But I need you for the war. Come with me and I'll take you to France where you'll kill Germans in units where I can't see you. You get back to New York and we celebrate. You go back to Birmingham and I'll tear your uniform off. You may have been a soldier over there, but don't forget that over here, you belong to me. I'll burn you alive and I'll peel your skin off and you'll die so that your brothers and sisters understand who really has the power here.
David Jesselson, on sent bien qu'il arrive un moment dans la vie de Nina Simone où justement ce qui se passe dans son pays la fracasse encore plus et elle devient comme folle, elle veut aller se battre. Et c'est son mari, à l'époque, qui la retient, qui ferme les portes à clé, qui l'empêche de sortir. Il y a ce moment de furie et en plus, pendant ce temps-là, elle se fait tabasser par son mari.
Oui, elle réagit à un attentat. Il y a en 63
à Birmingham
un attentat ignoble où des suprémacistes blancs mettent une bombe et passent ensuite en moto avec des fusils mitrailleurs et tuent 4 petites filles dans le sous-sol de l'église en faisant exploser une bombe et ensuite ils passent derrière et ils tirent. Et elle apprend cette nouvelle à la radio et ça la fait complètement vriller. En tout cas, ça la choque de manière tellement violente qu'elle dit « Bon, ok, les lois, ça marche pas, personne nous écoute, on fait passer des lois, mais elles ne sont pas suivies des faits, j'y vais, je vais prendre une arme. » Alors elle monte au grenier et elle prend un morceau de métal, une barre, et elle dit « Je vais tuer des gens, je vais tuer des blancs. » Et elle sort de chez elle et elle est prête à aller se venger très directement. Et son mari lui dit « Non, 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 tu rentres. » Alors la légende dit, elle raconte dans sa biographie partout, qu'il lui dit « Ce que tu as, ce sont les mots, ce sont les chansons, alors mets-toi à ton piano et écris. » Et elle raconte qu'elle écrit « Mississippi Goddamn », qui est une chanson en réaction à l'attentat de Birmingham. Moi, ce qui me semble très passionnant, au-delà de l'anecdote, c'est que tout d'un coup, elle a un combat à la maison, mais surtout, elle décide, quelle que soit la vérité de ce récit-là, que son arme, ce sera les mots, que son arme, ce sera la musique, et qu'elle ne peut pas se venger avec un couteau ou avec un revolver, elle se vengera avec ses mots. Et pour nous, aujourd'hui, en 2020, ça ne veut pas dire grand-chose, une chanson qui dit « Le Mississippi, putain », parce que ça veut dire ça, « Mississippi Goddamn », ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en 1964, aux États-Unis, une femme noire américaine qui prend ce pouvoir-là et qui, sur les ondes de radio, dit ça, elle prend un risque vital. Et au fond, elle prend le même risque vital en chantant cette chanson en public qu'en y allant et qu'en essayant de se venger par elle-même. Et ça, il me semble que c'est extraordinairement beau, c'est que elle fait confiance à la puissance de l'art et elle dit aussi que l'art est un risque. Et elle prend ce risque de l'art, elle prend ce risque de la chanson et il est aussi risqué que le risque du corps, il est aussi risqué que de sortir dans la rue et d'essayer de se défendre au corps à corps. Et ça, je trouve ça très bouleversant et ça dit aussi comment est-ce que les hommes et les femmes afro-américains, afro-américaines, dans les années 60, inventent comme façon de lutter pour obtenir leur liberté. Il y a de multiples moyens. Pendant des années, on a opposé les mouvements non-violents avec les mouvements violents. Mais ça, c'est une lecture très, très ethnocentrée de l'histoire qui n'est pas du tout aussi binaire que ça. Les mouvements de lutte non-violente et les mouvements de lutte violente convergeaient. Ce qui comptait, c'était de faire avancer la cause et d'obtenir sa liberté. Que ce soit du côté de Malcolm X ou de Martin Luther King ou de SNCC ou du CORE, tous ces groupes d'activistes à un moment donné se rejoignaient.
D'ailleurs, il y a de la vidéo dans votre spectacle et on voit, c'est un peu fondu, on a du mal à distinguer, mais on les connaît tellement, ces archives, on voit ces mouvements, les grandes manifestations, les leaders noirs qui parlent, Martin Luther King, Malcolm X. Et puis là, il y a aujourd'hui, chez nous, maintenant, la voix de Nina Simone qui dit ce que c'était pour elle, cette envie de prendre les armes.
Si je m'étais laissé guider par mes propres sentiments, je serais devenu un tueur. Parce que j'étais folle. Je me serais procuré des fusils et je serais allée dans le sud. Et j'aurais été violente et j'aurais tiré si cela n'avait dépendu que de moi. Mais mon mari m'a dit que je ne connaissais rien aux armes et que la seule chose que je pouvais faire, c'était de la musique. Alors je lui ai obéi. Mais si j'avais agi selon mon cœur, je ne serais plus là aujourd'hui. Je serais probablement morte, car je m'en serais servi des fusils. Je n'ai jamais été quelqu'un de non-violent. Oui, c'était dangereux. Beaucoup de gens étaient à nos trousses plusieurs fois. Et ça m'excitait, parce que je me sentais vivre plus que maintenant. Car on avait besoin de moi et je pouvais chanter pour aider mon peuple. C'est devenu le centre de ma vie, la chose la plus importante pour moi. Ce n'était ni le piano, ni la musique classique, ni même la musique populaire, mais la musique des droits civiques.
David Jesselson, on sent bien à quel point cette histoire, comme toutes les histoires que vous avez choisi de porter à la scène, vous a habité réellement. Et on comprend aussi pourquoi vous avez voulu le faire avec des acteurs noirs américains. Et il y a d'ailleurs la trace dans votre spectacle de ce débat qui est un peu gênant pour nous, qui est... qui a le droit de parler d'une histoire qui n'est pas la sienne. Vous avez choisi de le traiter même carrément sur la scène, puisqu'à un moment, l'amoureux de Nina Simone reproche au mari de la prof de piano de parler de l'histoire des États-Unis alors qu'il n'est pas, voilà, il n'y connaît rien, il vient d'ailleurs, etc. Et en fait, vous, ce qui a dû être une interrogation et une crainte de votre part, parce qu'on a, en ce moment, il y a des, sur la la scène culturelle des gens qui s'opposent à ce que des gens qui ne sont pas indiens, autochtones, parlent des problèmes autochtones. Même Ariane Nouchkine, même Robert Lepage ont été empêchés de parler pourtant d'une histoire pour la défendre et pour la montrer. Donc, comment est-ce que vous avez discuté de ça avec vos acteurs et puis les gens qui là-bas vous ont fait confiance?
Pour commencer, je pense que il faut dire cette phrase d'Éric Fassin, qui n'est pas moi, qui est un journaliste, qui a écrit cette chose dans Le Monde il y a plusieurs mois, un an ou deux. C'est pas parce qu'on veut parler pour qu'on ne parle pas à la place. Et force est de constater que on a fait l'expérience de ça, il a raison. On a beau vouloir parler pour, parfois on parle à la place. La question, c'est de savoir d'où on parle. Quelle est la place depuis laquelle on prend la parole? Et ça, on l'a interrogé en permanence. Et se posant la question, on a décidé de se... Enfin, on n'a pas décidé. On a réussi à se mettre d'accord pour avoir une parole commune. Mais en ayant ça en permanence, au quotidien, chaque jour de répétition, là. Non pas comme un problème, mais comme une chance. Parce que si on traite la question de l'appropriation culturelle uniquement sur le versant de la liberté d'expression, je pense qu'on s'en trompe très lourdement. Je pense qu'il n'y a pas de cri sans douleur. Quand on crie, c'est qu'on a mal. Ou alors, qu'on veut se faire entendre. Mais ça fait mal à la gorge de crier. Alors quand on crie à l'appropriation culturelle, il est probable que ce n'est pas pour rien. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Je pense qu'on ne peut pas traiter ça par le mépris. Et évidemment, parfois, ça va très loin. Et pour cause, on ne peut pas résoudre 4 siècles d'esclavage en 1 siècle. On ne peut pas se dire qu'un génocide de 25 millions de personnes, les Amérindiens, se résout en 2-3 siècles, que ça va, on passe à autre chose. Non, ça n'est pas vrai. Donc, les raisons pour lesquelles on crée à l'appropriation culturelle beaucoup, pour moi, sont toujours bonnes, sont toujours justifiées. Ce qu'il faut se poser là, je pense qu'on est responsable, comme société, de ne pas écouter. Si on n'écoute pas, alors on est responsable de ne pas écouter. Notre devoir est d'écouter et d'essayer de résoudre. En tout cas, c'est mon point de vue très intime. Et après, je trouve que c'est à chacun de le résoudre comme il veut. Mais ayant cette conviction très profonde, je l'ai apportée avec moi quand on était aux États-Unis. Et ça a eu un écho très fort avec les équipes. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'actrices et d'acteurs nous ont dit « Ah, c'est cool, on va pouvoir en parler sans se fâcher tout de suite. » Il y a eu des conflits. Évidemment qu'il y a eu des conflits. Et ces conflits se retrouvent dans le spectacle.
C'est bien, on les a entendus, effectivement. En tout cas, David Jesselson, c'est un spectacle passionnant que vous nous invitez à voir. Vous êtes en ce moment en tournée. Ce soir, 14 mars, vous terminez à Niort. Et vous serez ensuite en tournée jusqu'en mai. Et pour les Parisiens, ça sera du 20 au 29 avril au Théâtre de la Bastille. Voilà, ça s'appelle « Le silence et la peur » avec 4 acteurs formidables, 5 d'ailleurs, Dee Besnahel, Craig Blake, Laure Mathis, Elios Noël et Kim Sullivan. Merci à vous David Jesselson.
Merci
et
beaucoup.
Bonne route, bonne tournée. Merci. Au revoir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.